avec Dieu lorsque les doutes et les craintes nous assaillent sans cesse et sans relâche de tous les côtés. Je crois qu'on se pose souvent avec Dieu quand je perds quelqu'un qui m'est cher. Comment est-ce que je peux persévérer avec Dieu quand le docteur m'annonce que j'ai une grave maladie ou un cancer et qu'il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre? Comment est-ce que je peux persévérer avec Dieu quand les gens que j'aime rejettent Dieu, malgré toutes mes prières et mon amour? Ça peut être nos amis, nos enfants, notre famille, voire même des collègues. Comment est-ce que je peux persévérer avec Dieu quand ma famille tombe en morceaux et que je n'ai aucune idée de quoi faire? Comment est-ce que je peux persévérer avec Dieu quand je me sens stressé, fatigué, accablé, parce qu'il y a trop de choses à faire, parce qu'il y a trop de problèmes en même temps? Je suis sûr que vous êtes déjà posé une fois au moins cette question. En tout cas, moi, c'est le cas. Et peut-être que certains se posent ce type de questions ce matin. Alors, je sais que le dimanche matin, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de phrases, beaucoup de mots. Mais s'il y a une seule chose que je souhaite qu'on se rappelle ce matin, ça serait que la puissance de Dieu est à l'œuvre dans nos vies pour qu'on persévère avec lui. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans nos vies pour qu'on persévère avec lui. Je vais prier. Merci Père pour ta présence parmi nous et pour ta bonté, ton amour. Merci pour ta fidélité parce que tu ne nous laisses jamais seuls. Et même si parfois on a le sentiment inverse. Merci Père pour ta parole, de l'avoir préservée, de l'avoir rendue disponible pour nous. Père, vraiment, ouvre nos cœurs, nos yeux, afin qu'on ne soit pas seulement informé, mais surtout vraiment transformé par la puissance de ta parole. Amen. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles et à prendre le paragraphe, les versets, dans Éphésiens 1, versets 15 à 23. Je vais également les projeter, comme ça tout le monde pourra également les lire. Donc, pour ceux qui veulent chercher, je laisse un peu de temps. Éphésiens 1, versets 15 à 23. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous a fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent? Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui? Cette puissance, en effet, il l'a déployé dans toute sa force en faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui qui habite la plénitude de Dieu, qui remplit tout en tous. Paul a écrit cette lettre pour encourager les chrétiens à vraiment comprendre ce que Dieu a fait pour eux et à vivre en conséquence. Et mon désir ce matin, c'est que ce passage ait le même effet sur nous. Nous encourager à comprendre ce que Dieu a fait pour nous et à adapter notre vie en conséquence. Au début du chapitre d'Éphésiens, les premiers versets, Paul remercie Dieu d'abord de nous avoir donné de merveilleuses richesses en la personne de Jésus. Puis dans le deuxième chapitre, ce qu'on va voir là, ce matin, il demande à Dieu d'ouvrir, d'illuminer notre intelligence. Donc c'est ce verset 18. Il nous dit même illuminer les yeux de notre cœur, afin qu'on le comprenne pleinement ces merveilleuses choses, et surtout qu'elles transforment notre vie. Alors je suis allé voir dans le dictionnaire ce que voulait dire illuminer. Donc illuminer, sa définition, c'est éclairer d'une lumière vive. Dernièrement, j'ai lu un article sur les points aveugles. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Peut-être les médecins ? J'ai découvert que dans notre œil, à l'intersection où le nerf optique s'insère dans la rétine, il y a une zone minuscule qui est totalement aveugle, car elle ne possède pas de molécules sensibles à la lumière. Donc quand j'ai lu cet article, je me dis, c'est un vrai article ou pas ? Je suis allé voir Internet et en effet, donc j'ai découvert qu'il y avait deux points aveugles, un dans chaque œil. Et je me suis dit, waouh ! C'est quand même étonnant parce que quelque part, je n'en avais pas conscience. Pourtant, ils sont bien présents. Et pour ceux qui en doutent encore, il y a quelques tests qu'on peut faire sur Internet pour vraiment s'en rendre compte. Donc nous avons tous deux points bien distincts dans notre champ visuel où nous ne voyons pas. Ça m'a interpellé parce que ça m'a permis de faire un parallèle avec ce texte de Paul qui demande à Dieu d'illuminer les yeux de nos cœurs ou notre intelligence, comme si par nous-mêmes, nous ne pouvions pas voir certaines choses et que sans Dieu, nous ne nous rendons pas compte que notre vue n'est pas complète. Qui a déjà perdu ses clés ici, le clé de voiture ? Très souvent. En tout cas, moi, ça m'est arrivé assez souvent. Et puis, c'est vrai que dans des moments où on est vraiment en retard, on a vraiment une contrainte, il faut prendre un train ou aller chercher les enfants, c'est possible, on court partout, on regarde, on jette, on passe trois fois dans la pièce, on est sûr que c'est dans cette pièce et on ne la trouve pas. Moi, il m'est déjà arrivé de m'arrêter 5 secondes, de dire « Allez, Seigneur, aide-moi à trouver ces clés, j'en ai besoin. » Puis refaire le tour. Puis là, on les voit derrière une lampe, alors ça fait 10 fois qu'on passe devant. Alors, c'est peut-être un peu futile hein, comme action de Dieu dans ma vie, mais je crois que Dieu agit dans les petites comme dans les grandes choses. Et ce n'est pas automatique. Hein. Mais en tout cas, cette histoire, pour illustrer que nous avons besoin que Dieu nous illumine pour qu'on puisse voir certaines choses. Et dans le cadre de Paul, nous avons besoin que Dieu nous donne un esprit de sagesse, de révélation, pour qu'on puisse le connaître, le découvrir avec notre cœur. Et ce, à travers 3 vérités. Et c'est sur ces 3 vérités ce matin que je vais concentrer le message. Alors, quelles sont ces 3 vérités que Paul veut que nous découvrions ? Ben, si on reprend le verset 18, on voit que la première est « En quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés ?» Nous avons une merveilleuse espérance en Dieu. Alors, Paul parle d'espérance. Mais de quel genre d'espérance parle-t-il ? Et en quoi mon espérance est différente et supérieure à l'espérance que les gens non-chrétiens ont autour de nous ? Je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que l'espérance est une force indispensable dans la vie. Mais il n'y a que la foi chrétienne qui l'offre véritablement. Les autres systèmes de pensée fonctionnent souvent au mieux avec des espoirs. J'espère telle chose, j'espère une promotion, j'espère gagner un match de tennis. Mais la Bible fonctionne avec des espérances. Et quand Paul nous parle d'espérance, il nous parle de certitude future. Et cette certitude future doit changer notre manière de voir les choses. Une illustration simple. Qui a déjà essayé de faire une grande longueur sous l'eau dans une piscine ? Tout le monde, hein, je pense. En tout cas, tout le monde a certainement essayé. Un peu comme ça. Est-ce que vous avez déjà remarqué que c'est nettement plus facile quand on a des lunettes et qu'on peut voir le mur au bout de la piscine? Parce que dans notre cas, quand dans une piscine notamment où il y a beaucoup de chlore, ou que c'est très sale, bah, on espère que le mur va arriver. On espère qu'il est bientôt là. Mais le fait de le voir, c'est qu'on en est certain et ça nous pousse à aller plus loin. Et en cela, l'espérance est une exclusivité chrétienne. Parce que Jésus a déjà tout réalisé à la croix. Au départ, hein, nous étions tous sans espérance, morts à l'intérieur à cause de nos fautes et de notre rébellion avec Dieu. Mais Dieu, dans son amour infini, a sacrifié son Fils unique, Jésus, pour nos fautes. Jésus a pris notre place. Et en plus, on vient de le voir à Pâques, hein, 3 jours après, Jésus est revenu à la vie. Et le fait qu'il soit revenu à la vie nous montre qu'il a vaincu la mort et que le Père a accepté cette transaction. Mes péchés sur lui et sa droiture sur moi. La rançon a été payée. Tout a été payé. Notre espérance aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir nos fautes pardonnées et avoir une relation vivante et restaurée avec Dieu. Paul nous parle aussi de cette espérance dans Romains 5, versets 3 et 4. Il dit « Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. » En lisant ces versets, j'ai l'impression que Paul ajoute un bonus là pour augmenter encore plus notre espérance. Et c'est assez étonnant, hein, parce que les choses qui normalement enlèvent l'espérance des autres, hein, les difficultés, les lourdeurs, les problèmes, là, ne font qu'augmenter l'espérance du chrétien. Les difficultés, les problèmes que nous rencontrons suivent un processus. La détresse produit la persévérance conduit à la victoire, et la victoire nourrit l'espérance. Alors, pas si facile à vivre, mais il faut vraiment que nous demandions à Dieu de nous aider dans ces moments-là, de nous rapprocher de lui pour qu'il nous aide. Et il l'a écrit, ça se réalisera. Les bonnes choses que nous recevons de Dieu confirment sa bonté, son amour, et nous permettent d'espérer que nous recevrons la totalité des bienfaits qu'il a pour nous. D'accord, très bien. Mais est-ce que ce que nous venons de décrire, cette espérance, est-ce que ce n'est pas qu'un placebo pour nous faire passer la pilule des difficultés? Est-ce que tout le monde connaît l'effet placebo? C'est ces phénomènes psychologiques, hein, j'en donne un exemple. Quelqu'un qui a mal, on dit « prends ce cachet rouge », et si tu as vraiment très mal, prends ce cachet bleu. Et en fait, les deux comprimés, c'est des Smarties. Mais c'est un fait avéré que souvent, il se sentira mieux. C'est ça l'effet placebo. Et beaucoup voient la foi chrétienne ainsi. Oui, oh, ça peut faire du bien. Oh, bah, au moins, on espère quelque chose. Peu importe si c'est vrai ou non. Et puis, si cela nous aide à traverser les moments difficiles de la vie, pourquoi pas? Mais Paul affirme que l'espérance biblique n'est pas un placebo. Il nous le dit là en Romains 5, verset 5. Or, cette espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si Jésus est déjà mort à la croix et ressuscité, l'espérance chrétienne n'est pas étonnante ni farfelue. Et ce n'est pas un placebo. Toute la base est déjà réalisé. Le nouveau monde, le nouveau corps, une nouvelle vie immortelle, le retour de Christ, son règne éternel, bah, tout cela est entièrement concevable si on accepte la mort et la résurrection de Jésus déjà accompli pour nous. Il n'y a plus personne là-haut sur la croix. Et d'ailleurs, si les Sétois reconnaissent, ils vont voir d'où est la croix. C'est la croix du Mont-Saint-Clair, en haut de Sète. C'est cette bonne nouvelle qui nous donne tant d'espérance. Alors on a vu qu'on a une espérance en Dieu, mais il y a aussi deux autres vérités que Paul veut que nous découvrions. La seconde, c'est quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu veut, que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Donc c'est la fin du verset 18. L'héritage de Dieu, riche et glorieux. Alors qui n'a pas rêvé un jour de recevoir un héritage? Parfois on reste bouche bée, hein, devant la fortune que représentent certains héritages. Madame Bettencourt, hein, quand elle est décédée, elle a laissé plus d'un milliard d'euros à ses héritiers. Et parfois, on aimerait avoir un petit oncle en Amérique, là, avec une grande fortune, et toucher un héritage qui nous permettrait de se débarrasser peut-être des problèmes financiers qui peuvent parfois nous pourrir la vie. Mais des fois, un héritage peut aussi avoir des effets néfastes. Il y a des familles hein, qui se déchirent complètement lors d'héritage. La sœur qui n'hésite pas à attaquer son frère devant les tribunaux pour récupérer le maximum. Ou bien des enfants qui veulent mettre à la porte leur mère pour pouvoir vendre la maison familiale et récupérer l'argent de la vente. Je suis certain que vous connaissez des exemples, des situations semblables. Malheureusement. Moi, je pense à un exemple récent que vous avez dû entendre parler, l'héritage de Johnny Hallyday, qui a fait couler de l'encre dans les journaux. Mais c'est quand même triste. Mais l'héritage dont il est question dans Paul est bien mieux que tout cela. On peut lire en Galates 3, versets 26 et 29, « Vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Et si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers, conformément à la promesse. » Ce passage de la lettre aux Galates nous révèle notre identité en Christ. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus ses fils et ses filles au moment de notre conversion. Et en lui, nous avons été inscrits dans le livre de vie. L'absence d'un père ou de ne pas connaître sa filiation peut affecter et peut influer aussi très souvent sur le développement d'un enfant. Et ce manque se fait encore plus ressentir quand il devient adolescent ou adulte. On voit souvent le besoin de rechercher son géniteur qui parfois peut devenir presque obsessionnel. Le nom de famille que nous portons est important. Donc pareillement, nous, fils et filles de notre Père céleste par Christ, si nous ne connaissons pas véritablement notre identité dans le Seigneur, nous vivons notre vie dans l'incertitude des lendemains. La crainte, le doute et le manque d'estime de soi peut influer nos décisions de chaque jour. Laisse-moi te rappeler que si tu es fils ou fille du roi des rois, c'est que tu es prince ou princesse. D'ailleurs, si je dis à ma fille qu'elle est princesse, on va voir ses yeux grandir. Mais on devrait avoir la même réaction que ma fille quand je lui dis que c'est une princesse. Alors, peut-être difficile à croire hein, pour toi, parce que quand tu demandes, pour moi, c'est impossible. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire. J'ai plein de soucis dans ma vie. Rien n'est facile pour moi. Et pourtant, c'est bien vrai. La Bible le déclare. Tu es fils ou fille du Dieu vivant. Alors que tu as des privilèges que les autres n'ont pas. Et si tu es fils ou fille, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Héritier de merveilleuses bénédictions. Cependant, le comportement d'un héritier dépend de la jouissance de l'héritage aussi. Et pour ceux qui connaissent Paris Hilton, elle a fait tellement parler d'elle de manière mauvaise que son grand-père, qui avait créé à travers le monde cette chaîne d'hôtels de luxe, hein, les hôtels Hilton, mais il en avait tellement honte qu'il a affirmé vouloir léguer une grande partie de ses biens à une association humanitaire. Nous portons un nom que nous devons honorer. On est fils, fille, héritier du Christ. La jalousie, la médisance, le manque d'amour envers nos frères et sœurs sont des comportements à bannir de nos vies. Car nous sommes tous fils et filles du roi. Et nous avons le même héritage. Alors travaillons ensemble pour l'avancement du royaume de notre Père. L'héritage promis par Dieu à ceux qui croient, c'est notamment la vie éternelle, mais c'est aussi la communion avec lui et le bonheur parfait de vivre en sa présence, loin du péché. Cet héritage est tellement merveilleux, d'ailleurs, que Paul n'a pas de mots assez forts pour le qualifier. Il parle donc de la glorieuse richesse de l'héritage de Dieu, sans aller plus loin dans la description, car il est impossible de décrire tellement c'est bien. Alors si tu veux profiter de ce magnifique héritage, crois. Crois que Jésus est mort à la croix pour tes péchés et qu'il est vivant. Et cet héritage va bien plus loin que la vie terrestre. Et pour bien comprendre tout cela, ces réalités divines, ça ne dépend pas de notre acuité, de notre intelligence, mais plutôt de notre cœur sensible. C'est une question d'affection aussi bien que d'esprit. Dieu donne ses révélations à ceux qu'il aime. Il ouvre de grandieuses possibilités à chaque croyant. Car même si nous n'avons pas tous un QI très élevé, nous pouvons tous avoir un cœur aimant, un cœur rempli d'amour. Et nous avons besoin de voir avec le cœur, et pas uniquement avec notre intelligence. Donc on a commencé à voir qu'on avait une grande espérance en Dieu, et puis on a vu l'héritage riche et glorieux de Dieu. Et maintenant, la troisième vérité que Paul veut nous faire comprendre, c'est quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Alors, on peut se poser la question, d'accord, ok, la puissance de Dieu est à l'œuvre dans nos vies, notamment quand on persévère avec lui, etc. Mais comment est-ce que je peux savoir si Dieu, il est vraiment dans ma vie? Et est-ce qu'il veut venir dans ma vie? Est-ce que sa puissance est vraiment dans ma vie personnelle? La fin du verset 19 nous donne la réponse. À nous qui plaçons notre confiance en lui. Dans une autre traduction, il dit « dont il dispose pour nous les croyants ». Dieu déploie sa puissance dans nos vies que si l'on croit dans cette bonne nouvelle dont j'ai parlé tout à l'heure. Une autre question aussi qu'on pourrait se poser, c'est bien que la puissance de Dieu soit à l'œuvre dans nos vies et qu'on persévère avec lui. Mais est-ce que cette puissance est assez grande pour me garder dans ma vie quand elle est chamboulée par des tempêtes ou des ouragans? Alors ça fait un peu penser à la question des disciples dans la barque avec Jésus, quand il le réveille. Est-ce que Dieu est assez puissant pour s'occuper de mes problèmes, à moi, qui me semblent insurmontables? Le verset 19 nous dit que cette puissance est extraordinairement grande. Dans une autre traduction, c'est le terme « surabondante » qui est employé. Mais le passage ne s'arrête pas là. Il continue en nous montrant de quoi cette puissance qui est à l'œuvre dans nos vies a été capable d'accomplir. La puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans nos vies est la même puissance qui a été à l'œuvre dans trois événements. Alors le premier, on l'a lu, elle a rendu la vie à Jésus. Alors on va tous certainement mourir un jour, et personne ne pourra empêcher notre décomposition de notre corps, parce qu'on est fait de poussière et on retournera à la poussière. Aucune puissance humaine ne peut empêcher ces choses, et encore moins redonner la vie à un mort. Mais Dieu a fait ce qui nous est impossible à nous. Il a rendu la vie à Jésus en lui donnant une vie totalement nouvelle, immortelle, glorieuse, que personne n'a possédé avant lui, ni depuis. Je trouve quand même que c'est incroyable de se dire que le même Dieu, et avec la même puissance qui a rendu la vie à Jésus, est à l'œuvre dans ma vie, moi, Alban, à Montpellier. Ensuite, on voit dans la suite du passage que Dieu, avec cette puissance, a élevé Jésus à la droite du Père et au-dessus de tout nom. Je vais relire le passage tellement il est beau. Là, donc c'est au verset 21, là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dans vos têtes, essayez d'imaginer la chose ou la personne la plus puissante du monde. Alors que ce soit une bombe atomique, une météorite, un volcan, Donald Trump. Peu importe qui ou quoi vous ayez en tête, je peux vous assurer que Dieu est infiniment plus puissant. Et il n'y a pas plus de petits astérix hein, qui nous renvoient, comme dans les assurances, sauf si... non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. La puissance de Dieu qui l'a élevé à cette position est la même puissance qui est à l'œuvre dans ma vie. Le troisième point qu'on lit dans les versets, c'est que Dieu, avec cette puissance, a placé Jésus comme chef absolu sur l'Église. Jésus est décrit comme le chef de l'Église, fin du verset 22 et 23, qui est son corps. Le mot grec traduit par chef, là, c'est képhalé, qui peut être aussi compris comme tête. C'est pourquoi nous associons l'image du corps à l'Église et Jésus qui en est à sa tête. Oui, le fait que Jésus soit le chef de l'Église, au sens universel, sur toute la terre, sur toutes les dénominations qui se réclament de son nom, c'est aussi une manifestation de sa souveraineté et de sa toute-puissance. La puissance de Dieu qui est à l'œuvre de nos vies est la même puissance qui a rendu la vie à Jésus, la même puissance qu'il a élevée au-dessus de toute chose dans l'univers et qu'il a placée comme chef absolu de l'Église. Donc pour répondre à la dernière question, hein, mes grandes comment ? Immense. Immense. Est-ce que la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans nos vies est assez grande ? Oui, il n'y a aucun doute. Peu importe ce qui se passe dans nos vies, peu importe l'intensité de la tempête, vous pouvez vivre en paix, sereinement. Dieu a tout sous son contrôle. Alors peut-être maintenant quelques exemples dans la Bible. L'Ancien Testament est rempli de récits de merveilleuses bénédictions qui ont été accordées à ceux qui vivaient avec la présence de Dieu. J'en ai pris quelques-uns, par exemple... Josué, où Dieu promit à Josué qu'aucun ennemi ne pourrait l'affronter tant que la présence de Dieu l'accompagnerait. Josué 11, versets 5 et 6. « Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. » Il y a aussi Jérémie, où Dieu prévient Jérémie que la nation entière se retournerait contre lui et rejetterait ses prophéties. Cependant, Dieu promit, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Il allait faire la guerre, hein. Il n'a pas, il n'était pas dans un cocon, seul, tranquille, non, il allait avoir la guerre, mais ils ne gagneront pas. Il y a aussi Ésaïe, où Dieu parle à Ésaïe d'une promesse spéciale qu'il avait faite à ceux qu'il aime. Ésaïe 43, versets 1 à 5. « Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Du fait que tu as du prix à mes yeux, sois sans crainte, car je suis avec toi. » N'est-ce pas magnifique ? Il y a plein d'autres exemples comme ça dans la Bible, hein, Abraham, Gédéon et d'autres. Et ces passages de l'Ancien Testament ne sont pas juste des récits d'une lettre morte. Ils ont pour but de nous encourager et de nous exhorter à rechercher la présence de Dieu dans nos vies. Et toi, dans ta vie, est-ce que tu vois la puissance de Dieu, sa présence? Pour conclure, nous avons vu ce matin que nous avons une espérance merveilleuse en Dieu et que nous avons également un héritage riche et glorieux, puis finalement que la puissance de Dieu, une extraordinaire puissance, est à l'œuvre dans nos vies. Tout cela doit nous permettre de persévérer avec lui. Paul, dans sa prière, nous a en quelque sorte emmenés dans les hautes sphères, nous a fait presque planer dans les merveilles de Dieu. Et ce qui est vraiment fantastique et extraordinaire, c'est que ces merveilles nous sont accessibles. Alors peut-être que vous connaissiez déjà l'espérance, l'héritage, la puissance de Dieu, mais est-ce que vous en bénéficiez dans vos vies? Faisons le parallèle avec l'histoire que je vais vous raconter. C'est un concours qui est organisé dans une petite ville pour gagner un repas cuisiné par un très grand chef étoilé. Un cuisinier célèbre est le gagnant du concours pourra choisir lui-même le menu. Alors il y a un grand nombre de personnes qui ont participé à ce concours parce que le cuisinier était vraiment excellent. Beaucoup voulaient goûter d'excellents plats. Donc le jour du résultat est arrivé. Et parmi tous les participants, c'est un enfant de 8 ans qui a gagné le concours. À votre avis, qu'est-ce que l'enfant a choisi comme menu? Frais frites, jambon, coquillettes. J'ai testé avec ma fille, elle m'a dit pareil. Là, le petit garçon qui a demandé, il a demandé des spaghettis tomates sauce bolognaise. Et comme dessert, de la glace. De la glace avec de la chantilly. L'enfant n'était pas conscient de toutes les richesses qu'il pouvait bénéficier, mais l'enfant a choisi finalement ce qu'il connaissait, spaghetti sauce bolognaise. Et il n'était pas conscient de toutes les bonnes choses que le cuisinier de renom pouvait lui préparer. Alors avant que tout le monde commence à avoir trop faim, je vais terminer. Dans ta vie, persévère pour découvrir la grandeur et la toute-puissance de Dieu. Dieu peut transformer ta vie et la manière dont tu passes tes épreuves. Personnellement, avec Nina, mon épouse, nous avons passé par des moments difficiles, très difficiles, notamment avec la maladie, ou je voudrais dire les maladies graves, avec des doutes, des incompréhensions, même parfois de la colère, de la souffrance, beaucoup de souffrance. Mais la seule issue, c'est Jésus. Et il est tout-puissant. Persévérez dans votre relation avec lui, afin de découvrir de plus en plus, le découvrir de plus en plus chaque jour. Et en plus, nous, on a la chance d'avoir un accès libre à sa parole. Profitons-en. Donc je l'ai dit, et je le répéterai encore, la puissance de Dieu est à l'œuvre de nos vies. Persévérons. Amen. Alors avant de laisser le micro à Eva pour terminer le culte, je vous invite à écouter et à regarder une chanson d'Olivier Chéouat, qui est un chanteur chrétien. Il a écrit une très belle chanson qui s'intitule « Persévère ». Donc, vous le connaissez peut-être, il y a les paroles qui vont s'afficher, donc n'hésitez pas à chanter. Je vais brancher le son. C'est bon.
Da-da-da. Da-da. Dieu m'a mis un rêve